Amis du soir, bonsoir. Très bienvenue d'abord à ceux qui sont dans la chapelle, bien évidemment, et aussi à vous qui êtes derrière votre écran pour participer à cette conférence, l'avant-dernière conférence. Je rappelle que demain, nous pouvons nous retrouver à 10h avant la messe de 11h. Donc, bienvenue toujours donc à cette retraite de carême. Très heureux d'avoir vécu toute cette semaine avec le Père Francis Gossens, mais je le dis bien, ce n'est pas fini, il faut persévérer jusqu'au bout. Il y a des grâces jusqu'à la dernière minute. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rester derrière votre écran et à bien ouvrir vos oreilles. Je rappelle qu'après cette retraite donc, qui se termine demain avec la messe de 11h, bien le carême ne sera pas fini avec la paroisse de Notre-Dame de Stockel. Vous pourrez, si vous le voulez, participer à la retraite de jeûne qui aura lieu du 17 au 24 mars. Mais j'attire votre attention sur une réunion d'information qui aura lieu lundi, c'est-à-dire après-demain, lundi 8 mars, à 20h30 sur Zoom. Donc vous allez sur le site internet. Je voudrais remercier ceux qui mettent à jour continuellement ce site internet qui vous permet de pouvoir accéder rapidement à ce que vous cherchez. Tout grand merci à cette petite équipe qui travaille bien. Alors, allez voir leur travail et profitez des fruits de ce travail. Je vous propose ce soir, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs tous les soirs, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais heureusement j'ai des paroissiennes merveilleuses, qui me rappellent les bonnes choses à faire dans une paroisse, et surtout quand on est en retraite. On va confier spécialement le Père Francis à l'intercession et à la prière de notre Maman du Ciel, qu'il puisse nous dire les bonnes paroles dont nous avons besoin ce soir, et puis que nous-mêmes, notre propre cœur, soit ouvert à accueillir sa parole, qui est la parole de Dieu pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Bonsoir à tout le monde, que ce soit ici dans la chapelle ou chez vous à la maison. Pour cette soirée, je voudrais un tout petit peu échanger avec vous sur l'importance du oui, le oui. Un oui donné à Dieu est un oui éternel pour le monde entier. Voilà. La première à avoir pleinement dit oui à Dieu, c'est la Sainte Vierge. Elle n'a pas hésité, elle a dit « Que tout se passe pour moi selon ce que tu veux. » Un oui donné à Dieu est un oui mondial et éternel. Avez-vous déjà pensé à ça? Que le oui que vous et moi nous donnons aujourd'hui au Seigneur est un oui éternel et mondial. J'aimerais bien que beaucoup de chrétiens réfléchissent à ça. L'importance du oui qu'ils donnent au Seigneur. Nous sommes tellement habitués de dire au Seigneur oui pour mes besoins. La Vierge Marie elle dit oui pour lui. Et comme elle dit oui pour lui, il peut, à travers elle, faire une œuvre merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse. Vous, comme moi, vous connaissez l'histoire. Il s'agit de la recherche de Dieu. Dieu cherchait quelqu'un qui allait lui dire oui, un oui sans condition, pour qu'il puisse se réapproprier le monde d'aujourd'hui et d'hier. Le oui que vous donnez à Dieu, et que moi aussi je lui donne, lui permet de reprendre le monde grâce à notre oui. Entre nous, je n'y avais jamais autant pensé qu'aujourd'hui. Ce besoin qu'a Dieu d'avoir des hommes et des femmes qui lui donnent un oui éternel et sans condition. Réfléchissez bien à ça pour vous-même et prenons conscience de l'impact du oui qu'on lui donne. Apparemment, la Sainte Vierge n'a pas eu difficile. La seule opposition qu'elle a émise, si on peut dire opposition, c'est comment est-ce que ça va se faire? Mais la question est légitime. Le oui que je te donne, comment va-t-il s'accomplir? Faites-lui confiance. Le oui veut dire que je m'ouvre tout à fait à lui sans condition. Sans condition. Il faudrait vraiment échanger là-dessus, prier ce oui, et bien peser tout ce qui en sortira de Dieu pour le oui que nous lui donnons. Pour Saint Joseph, c'était un peu plus compliqué. Vous le savez bien que quand Saint Joseph a appris que la Sainte Vierge était enceinte et qu'il n'y était pour rien, il avait dans son cœur émis le désir de la répudier en secret. Saint Joseph, ce n'est pas l'homme du scandale. C'est l'homme qui veut garder la pour garder Saint Joseph. C'est un homme qui veut garder la paix par ce oui inconditionnel qu'il donne à Dieu. Saint Joseph porte en lui un oui qui est l'obéissance à Dieu. Dans son cœur, il ne décide rien sans qu'il ait bien convaincu que ce qui est dans son cœur, c'est ce que Dieu veut qu'il vive. Voyez-vous, il faut de temps en temps regarder ces grands saints, ces grands formats. Ils ne mettent rien en œuvre tant qu'il n'est pas certain que ce qu'il y a dans son cœur, c'est ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Nous devrions avoir des temps d'adoration, de recueillement, de silence, beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, pour peser tout cela. Il lui dit, tu ne dois pas avoir peur de l'apprendre, ce qu'elle porte en elle est saint, il sauvera le monde. Pose pas de questions, hein, il continue, hein. Il continue. La même chose pour la fuite en Égypte. La même chose pour le retour d'Égypte. Un oui. Un oui à la certitude que ce qui est dans son cœur est le désir de Dieu. C'est autre chose que quelqu'un qui vient vous dire « Ah, j'ai reçu une parole pour vous. » Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. J'ai connu une personne qui en avait une tous les jours pour moi. Je vous jure que à la fin, ça devenait lourd. Et je lui ai dit un jour sur deux. Et comme elle continuait, j'ai dit une fois par mois. Mais elle a eu du mal à les retenir pour elle. Il ne faut pas jouer ce jeu-là. Donc vous voyez, le oui qui est donné à Dieu est un oui qui permet à Dieu de reprendre le monde en main à travers nos vies. Réfléchissez. Échangez là-dessus chez vous en famille. Discutez ça. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande de réfléchir à ça. Vraiment d'y réfléchir. Vous pouvez regarder la vie des saints et des saintes. C'est la même chose. Moi, je suis très attaché à Thérèse de Lisieux. Très attaché à elle. Mais cette fille n'a rien fait d'autre que d'accomplir le désir de Dieu à travers sa vie, avec la certitude qu'en accomplissant le désir de Dieu dans sa vie, le monde entier allait en bénéficier, et pour l'éternité. Elle est unique, vous savez, la vie chrétienne. Il n'y a pas beaucoup de gens dans leur choix de vie qui peuvent dire « Ma vie est éternelle et elle apportera une transformation dans le monde. » Au sens humain, l'être humain devient plus homme, plus digne, plus grand. Tous ceux qui ont accueilli le Seigneur dans leur vie ont apporté une transformation de leurs frères et leurs sœurs éternellement. Vous avez ici un prêtre qui est très attaché au Sacré-Cœur, à Sainte Marguerite Marie. Mais vous voyez depuis combien d'années cette femme qui a accueilli le Christ, qui l'a écouté et qui a vécu le désir de Jésus, a un rayonnement mondial. Ça ne vous fait pas envie, vous? Quel genre de vie avez-vous envie de vivre? Qu'avez-vous envie d'apporter au monde? Vous savez, au funérailles, j'ai déjà dit ça, il faudrait de temps en temps reprendre ce que veut dire l'éternité de notre vie. Ce que veut dire avoir vécu une vie qui transforme le monde en son éternité et en sa totalité. Vous comprenez alors, partant de là, que j'ai cette certitude que Dieu a besoin de chacun de nous. De chacun de nous. Mais de chacun de nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer une seule personne qui croit en lui que Dieu n'ait pas besoin de cette personne. Même si vous vous trouvez qu'elle est un peu zinzin, qu'elle est un peu drôle, qu'elle est un peu bizarre, ça ne fait rien. Dieu sait bien ce qu'il doit faire pour passer dans le monde à travers cette personne. Je vous parlais des grands saints, des grandes saintes. Me vient actuellement en tête Sainte Faustine. Moi, j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a du tempérament et du caractère. J'aime pas les gens avec la tête à midi moins quart, que quand on tape un cours derrière, ça sonne l'Angélus. Ça n'intéresse pas, quoi. Mais regardez Sainte Faustine, un jour, Jésus lui apparaît dans les années 30, 31, quelque part par là. Et elle lui dit, « Seigneur, moi je t'ai tout donné, je n'ai plus rien. Je t'ai tout donné, je n'ai plus rien. » Et notre Seigneur lui dit, « C'est pas vrai, tu ne m'as pas tout donné. » Or, elle a le désir de tout donner à lui. Et donc Jésus lui dit, « C'est pas vrai, tu ne m'as pas tout donné. » Moi, si Jésus me dirait ça, je serais mal, 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 mal. Et elle retourne dans sa prière, dans sa méditation, et à la visite suivante de notre Seigneur, elle lui dit ceci, « Dis-moi ce que je ne t'ai pas donné et je te le donnerai tout de suite. » Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Notre Seigneur lui dit, « Donne-moi tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne vient pas de moi. » Vous savez, il y a eu beaucoup de permanence de confession. Mais nous devrions apprendre à les déposer dans la confession tout ce qui est en nous qui n'a rien à voir avec lui. Si nous voulons que notre être soit totalement à lui, il faut que nous apprenions, non pas tellement à chercher nos petites gourmandises, nos petites distractions dans la prière, nos petites jalousies, mais beaucoup plus. Ce qu'il y a dans ma vie qui n'a rien à voir avec lui. Et alors elle lui dit, « Eh bien Seigneur, je pourrais avoir, je cite de mémoire, je pourrais avoir sur la conscience tous les péchés des damnés. Je ne douterai pas un seul instant de ta miséricorde et j'irai les avouer à un de tes représentants. Et je sais que derrière lui, c'est toi qui me pardonneras. » Donc vous voyez le oui de la Sainte Vierge, le oui de Saint Joseph, on prend des grands saints, notre oui à nous, l'importance d'un oui qui a une valeur éternelle. Regardez encore les fondateurs d'ordres, de congrégations, d'instituts. Ce sont des femmes qui ont, des femmes, des hommes, qui ont écouté Dieu et à travers leur écoute de Dieu, le désir de Dieu s'est répandu dans plein d'autres et ça a fait que ça a eu tout un rayonnement. Regardez, il y a une visitation ici tout près, Saint François de Sales. Moi j'aime beaucoup cet homme quand il s'adresse au clergé là et qu'il leur dit « Je vous invite à faire la guerre avec les armes de Dieu. » Et c'est sûr qu'il fallait combattre à son époque. Un homme, Saint John de Chantal, est regardé à travers le monde. Un oui à Dieu, ce qu'il peut apporter comme rayonnement. Vous savez, moi je suis malade, hein, quand un monastère ou une communauté religieuse se ferme, ça veut dire qu'il y a une réserve spirituelle qui disparaît. Et donc nous devons tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais pour que ça n'arrive pas, il faut rendre à ces congrégations ordre la possibilité de continuer de vivre. Pas tellement dans la collecte, hein. Il faut que des vies s'offrent pour que la mission puisse continuer. Il faut que des vies s'offrent pour que la mission puisse continuer. Nous, nous sommes consommateurs. Hein. On va là parce que l'heure de la messe nous plaît. On va là parce que le style nous plaît. On va là parce que le chant nous convient. J'ai déjà dit ça les soirées précédentes. Je suis toujours énervé quand on me dit « Ah, mais là, ça me rejoint. » Ça y est, va, on est vous, là, ça me rejoint. Mais non, hein, là, je rejoins le Seigneur. Et là, le Seigneur peut me rejoindre. Et je peux lui dire oui. Lui dire oui. J'espère qu'au cours de cette retraite, il y en a beaucoup qui diront oui au Seigneur. Je n'ai pas dit à tout le monde de rentrer au couvent, j'ai dit simplement de lui dire oui. Et un oui éternel. Pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Ce sont ces oui-là qui manquent. Donc, Dieu a besoin d'hommes, de femmes qui lui disent oui. Le oui à Dieu, c'est le oui qui maintient sa présence dans le monde. Il ne faut pas se plaindre hein, aujourd'hui, parce que ce oui-là manque. Une personne me disait bien avant le Covid, j'avais remplacé un curé, et cette personne me disait, c'est quand même malheureux, hein, on supprime les messes partout, hein. C'est parce qu'on manque de prêtres. Je dis non, hein, on manque de pratiquants. On manque de pratiquants. On manque d'hommes, de femmes qui disent oui au Seigneur. Qui disent oui au Seigneur. Pas des consommateurs. Hein. L'Église n'est pas un GB, une grande surface de je ne sais quoi. Non. Je ne peux rien exiger si je n'apporte rien. Je consomme du Seigneur et je ne lui offre rien. Je consomme du Seigneur et je ne lui offre rien. Donc vous voyez, si je résume, le oui de la Sainte Vierge, le oui de Saint Joseph, le oui de Saint de Sainte, que j'ai cité parce qu'ils sont connus, la nécessité de vivre sa vocation chrétienne, qui n'est pas d'être avec un stylo rouge et tout condamner ce que j'estime qui ne correspond pas à ce que je m'imagine être chrétien, parce que ça aussi on a des spécialistes hein, de ça, des spécialistes pour juger tout et tout le monde, sauf eux-mêmes, sauf eux-mêmes. C'est terrible, vous savez. Les gens qui viennent vous parler des péchés des autres et qui ne connaissent pas le leur. C'est un seul coup du malin, je crois ça. Alors on a là un couple, Saint Joseph et la Sainte Vierge. J'ai un jour rencontré le Père Letel et il disait « Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. » Le couple que Dieu a uni, c'est la Sainte Vierge et Saint Joseph. On ne peut pas les séparer. C'est un couple qui, chacun personnellement, ont dit oui tous deux pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Lui en tant que charpentier ou dans son boulot, et elle dans sa vie d'épouse, concrètement dans un village. Tous deux ont dit oui à Dieu et ils ont accueilli la vie de l'enfant de Dieu. Faut entendre les mots. Ils ont accueilli la vie de l'enfant de Dieu. J'inviterai vraiment les familles, les couples, les jeunes à regarder ce que ça veut dire. Un couple capable d'accueillir la vie de Dieu et de la développer, quoi. Et de la développer, la vie de Dieu dans un être qui leur est confié. J'ai une petite idée là-dessus. Je crois que beaucoup de jeunes, de moins jeunes, ne sont pas heureux parce que leur vie n'est pas la réalisation du désir de Dieu, mais que leur vie est l'accomplissement du désir d'un autre. Et vous citez un petit exemple me concernant, comme ça je parle sur le dos de personne. C'est pas facile de parler sur le dos de personne. Mon père était mécanicien. Et à l'époque où papa était mécanicien, c'était pas évident pour maman de nettoyer les salopettes de mon père, qui étaient pleines d'huile, pleines de graisse, et enfin voilà. Il n'y avait pas les mêmes produits il y a 50 ans. Oui, mon père est mort depuis plus de 40 ans, donc il n'y avait pas les mêmes produits, il n'y avait pas les machines à laver, enfin, c'était un truc encore à la main, on faisait bouillir l'eau, je me souviens de tout ça. Elle frottait ça avec la brosse de rue, enfin, c'était un bazar. Et alors ma mère me disait toujours, tu ne vas pas être comme lui, hein. Tu vas quand même bien étudier. Hein. Parce que je n'ai pas envie que ta femme vienne se plaindre. Ça c'est au moins réussi, il n'y a pas de femme qui va se plaindre chez ma mère, de moi. Ouf, un mystère douloureux en moi me concernant. Mais donc vous voyez, et donc pour ma mère, je réussissais ma vie si j'avais un boulot qui n'était pas crade. Et donc elle m'a poussé, et donc j'ai décroché pour commencer un premier diplôme de dessinateur en pont et charpente. Et j'ai travaillé dans un bureau d'études comme dessinateur. Pitié Seigneur, qu'est-ce que ça m'a pelé. Mais pour ma mère, c'était une réussite. Hein. J'avais un costume, hein. J'avais une chemise bien repassée et une cravate. Enfin, je trouve que le plastique n'est pas plus mal que la cravate, ça se nettoie plus facilement. Mais donc, vous voyez, elle a cru, ma mère, qu'en me poussant comme ça, j'allais réussir ma vie et j'allais être heureux. Et moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a rattrapé et qui m'a ouvert au projet de Dieu sur moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais des enfants, mais aujourd'hui à l'âge qui est le mien, à la situation qui est la mienne, c'est le conseil que j'ai envie de donner aux parents. Le Seigneur vous a confié une vie. Faites-la grandir selon son désir à lui, et pas selon votre conception de la réussite. Quand j'étais curé, et que j'allais pour une préparation au baptême, et que je disais aux gens, avez-vous des projets pour votre enfant? Tu ne parles. Il fallait qu'il apprenne plusieurs langues. Pas une mauvaise langue, hein, mais plusieurs langues. La mauvaise langue, ça vient naturellement. Il fallait qu'il aille dans de bonnes écoles, n'est-ce pas? Vous imaginez, quoi. Au Brabant Wallon, pouvoir aller à Martin V, ou au Christ-Roi, ou je ne sais plus où, parce que j'ai oublié. C'est quand même autre chose que l'école communale. On ne se soucie pas. On ne se soucie pas de l'âme de l'enfant. On se soucie de sa réussite. Il faut qu'il fasse du sport, n'est-ce pas? Qu'il soit bien musclé. Qu'il soit un corps beau. Hein. Voyez, je me demande si aujourd'hui, s'il n'y a pas de fausses routes qui sont très ouvertes. Et une fausse route a du mal d'atterrir au bon endroit. Mais voilà. Et donc, quand vous regardez Saint-Joseph et la Sainte Vierge, Dieu leur a confié une vie et ils l'ont fait grandir selon le désir de Dieu. Je vous dis ça parce que je rencontre trop de personnes malheureuses dans leur boulot, dans leur être profond, dans leur avenir, dans leur raison de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis ça. Je juge pas. Je répète. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai quand même le droit, ou peut-être même le devoir, de la part du Seigneur de dire quelque chose. Et donc, je me permets de vous dire ça. Puis, je sais que les couples aujourd'hui ont très difficile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y avait un agriculteur au village qui me disait toujours, au début du mariage, j'aurais bien mangé ma femme, mais après j'ai regretté que je ne l'avais pas fait. Et une autre dame qui me disait, ah monsieur le curé, au début j'étais mariée, quand mon mari partait, je le regardais partir, travailler, je pleurais. Et maintenant je pleure parce qu'il revient. C'est difficile, vous le savez bien comme moi. La fidélité est difficile, le pardon est difficile, la compréhension de l'autre est difficile. Vous le savez bien comme moi et mieux que moi. Mais il me semble toujours que nous avons une sainte famille comme modèle, mais qui est bien plus comme un modèle à imiter. C'est une sainte famille avec une puissance d'intercession. Ne croyez-vous pas que les épouses qui ont difficile peuvent de temps en temps demander à la Sainte Vierge comment elle a fait pour vivre avec Saint Joseph? C'est parce que nous sommes dans une imagerie où on se dit Saint Joseph était un homme parfait. Et elle était une femme parfaite. Ben oui, certainement. Et relationnellement, ils étaient toujours d'accord. Vous croyez qu'ils n'ont pas vécu des difficultés aussi? Vous croyez qu'ils n'ont pas eu des soucis aussi? Ce serait un peu fort de croire que eux ont été protégés de tout. Oui, la Sainte Vierge Immaculée Conception. Mais on ne dit pas ça sur Saint Joseph. On connaît quand même des traits du caractère de Joseph, vu qu'il avait pensé la renvoyer dans son cœur. Donc, regardez, questionnez, dialoguez les épouses avec la Sainte Vierge et les époux avec Saint Joseph. Avoir des gens dont on est sûr de leur valeur dans le cœur de Dieu. Donc quand vous dialoguez avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph, vous connaissez leur valeur dans le cœur de Dieu. Le poids, leur pouvoir d'intercession. Toujours pour vivre la vie que le Seigneur nous propose de vivre pour sa plus grande gloire. Il ne nous conduit pas tous en martyr. D'ailleurs, il n'y a aucun martyr qui sait tenir sans la présence du Seigneur en lui. C'est la présence du Seigneur en nous qui nous permet de faire face à ce qui nous arrive. C'est pas parce qu'on a réussi notre cours de gym ou qu'on a pu aller refaire nos exercices en salle de musculation, n'est-ce pas? Ce que je ne fais pas, vous voyez bien. Je n'ai pas un ventre très musclé, n'est-ce pas? J'ai juste une grosseur de liberté devant moi. Donc vous voyez, je suis fort, dit saint Paul, en celui qui me fortifie. Fréquentons des personnes dont nous sommes sûrs de ce qu'ils sont. Et si nous aimons la vie du ciel, c'est le ciel qui est notre vie et qui est notre référence. Ça, les époux, les épouses. Et puis, je sais aussi que des parents n'ont pas facile avec leurs enfants. L'âge de l'adolescence, ça rouspète, ça grince, c'est ci, c'est ça, on ne veut plus aller à la messe, hein? Alors les parents disent, tant pis si tu iras, hein? Puis ça grince. Et puis parfois ça dégoûte tout à fait, et ça peut dégoûter éternellement. de croire que tout dépend de moi. Il n'y a pas moyen de dire que tout dépend du Seigneur. Que de fois je dis aux parents, vous ne pouvez pas vous tourner vers le Seigneur et lui dire, l'enfant que tu nous as confié, on ne s'en sort pas avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu t'en occupes toi-même? Qui n'est pas un abandon de l'enfant, mais qui est un abandon de l'enfant au Seigneur, qui l'a voulu et qui vous l'a confié. Sinon, combien de parents se sentent malheureux et coupables? Et comme nous sommes dans une mentalité très psy, oui, mais enfin, c'est de la faute de son père, c'est de la faute de sa mère, et on est parti, quoi. Et puis on va un peu là, et on est parti, quoi. C'est de la faute du père, de la mère. Il y a peut-être un péché. C'est qu'on cherche trop peu la réalisation du désir de Dieu dans l'homme. Mais comme on est pris dans un esprit du monde, malheureusement, cet esprit s'infiltre en nous. Et on veut qu'il soit comme tout le monde, comme les enfants de notre milieu, de notre famille, de ceci, de cela. Apprenons à développer la vie des enfants de Dieu, pour nous-mêmes et pour les enfants qui vous sont confiés. Saint Joseph et la Sainte Vierge n'ont certainement pas toujours compris ce que faisait Jésus. Regardez un peu quand ils ont été en pèlerinage avec lui et qu'après ils ont cherché après pendant 3 jours. Alors bien sûr, quelqu'un qui va vous expliquer, un révérend père bidule machin, qui va vous dire, oui, mais c'est les 3 jours au tombeau, c'est ceci, c'est cela. Bon, oui, sans doute, peut-être, à la limite, je m'en fiche. Je me dis, ils ont cherché après lui. Et ils n'y avaient peut-être pas pensé de le chercher après plus tôt. Et puis ils courent partout pour le retrouver, hein, partout. Leurs amis et connaissances. Et personne ne les aide à retrouver leur enfant. Vous avez remarqué ça? Ils reviennent tous de pèlerinage, n'est-ce pas? Ils se sont bien remplis de leur pèlerinage. Et vous avez un couple qui cherche après son gamin, ils ont dit non, on ne l'a pas vu. Et ils peuvent continuer tout seuls à chercher après. Mais, comme tous les deux ont le désir de Dieu, Dieu les conduit là où ils retrouveront leur enfant. Ils le retrouveront là où ils doivent le retrouver, suivant ce qu'ils ont fait du projet de Dieu pour lui. Et ils ont retrouvé leur fils au temple, au milieu des docteurs de la loi. Et on était étonnés de son intelligence. Bien sûr, Jésus a l'intelligence de Dieu. Quand nous communions, est-ce que nous pensons que nous communions au corps de celui qui a l'intelligence de Dieu, afin que notre vie devienne aussi l'intelligence de Dieu? Voyez-vous, je n'ai pas l'intelligence de mes diplômes. Je dois m'exercer à avoir l'intelligence de Dieu pour commencer. Et donc j'en prends les moyens. Hein. Je fréquente le ciel, je fréquente la parole de Jésus et je communie à son corps. Ça n'a pas empêché la Sainte Vierge de dire à Jésus, ton père et moi, on était quand même tout angoissés, hein, chef. Tu nous as flanqué les jetons, quoi. Mais enfin, je devais être aux affaires de mon père. Sous-entendu, c'est comme ça que vous m'avez fait grandir, pour que je sois aux affaires de Dieu. Bien, c'est sûr. Hein. Moi, on m'a fait grandir pour que je sois à certaines affaires. mais pas directement celle de Dieu. On m'a fait grandir pour que je gagne bien ma vie, pour que je réussisse, pour que je n'aie pas de salopette, pour que ma femme ne se plaigne pas de moi, et ainsi de suite, etc. Voyez, on était surpris de son intelligence. Et on pourrait comme ça continuer pour entrer dans cette conviction de cette présence du Seigneur auprès de chacun de nous dans l'état de vie qu'est le nôtre. À partir du moment où, quand nous disons le Pater, nos paroles sont vraies, notre cœur y est. Quand je dis au Seigneur que ta volonté soit faite, il faut vraiment que ce soit ça, que je désire. Parce que moi, ce que je fais parfois, je ne sais pas vous, mais ce que je fais parfois, je dis que ta volonté soit faite, virgule, la mienne, elle n'est quand même pas trop mauvaise, virgule, et puis moi j'ai passé 3 ans à Rome et toi tu n'as jamais mis les pieds, alors fais ce que je te dis. C'est pas juste, hein? C'est pas juste, hein? C'est pas juste, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc vous voyez combien nous menons une superbe vie en étant croyants. Et c'est ce rayonnement-là de nos vies de croyants qui manque dans le monde. Moi ça ne m'intéresse pas tellement qu'on dise « il va à la messe ». Ça ne m'intéresse pas tellement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on dit, on voit que sa vie, il veut la vivre selon le désir de Dieu. Mais voyez pour vous-même, vous comprenez bien que si intérieurement vous avez le désir du Seigneur, c'est cette vie-là que vous donnez, que vous vivez et que vous construisez. Qui n'est pas une vie coincée. Ça ne fait pas partie de litanie de la Sainte Vierge. Hein? On ne dit pas Notre-Dame de tout coincement, priez pour nous. Hein? Les cathos coincés, il faut faire attention. Hein? Il faut les décoincer. Il faut peut-être aller les mettre trempés un peu à l'ourte ou ailleurs, je ne sais pas, mais à bon trempage. Quoi, hein? Dans une vie forte, équilibrée. Voilà, nous sommes les héritiers de Dieu. Et cet héritage, nous avons à le vivre. Nous sommes les héritiers de Dieu, et c'est un héritage à vivre. C'était l'évangile d'aujourd'hui, avec le fils prodigue. Lui, il a gaspillé son héritage. Mais il a retrouvé la bonne santé, revenant auprès de son père. Et oui, quand je retourne auprès de mon père, je retrouve ma bonne santé et ma vie reprend la vie qu'elle doit prendre et qu'elle doit être. Je m'arrête là. Je crois que vous avez de quoi méditer, réfléchir, prier, choisir une nouvelle vie, choisir un type de vie, vous regarder vous-même avec le regard de Dieu et son projet sur vous. Regardez vos conjoints, les membres de votre famille, non pas avec vos lunettes, mais sous le regard de Dieu. Regardez les enfants qui vous sont confiés, non pas avec les yeux du monde, mais avec les yeux du Seigneur. Si vous êtes convaincu que le Seigneur est le seul qui vous donne une vie éternelle et qui vous assure de ne jamais vous abandonner, je serai toujours avec toi, a dit Jésus, je serai toujours avec vous. Que tous les saints du ciel soient auprès de nous. Et que notre vie soit sainte et saine, selon le désir de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Surtout, surtout, allez bien dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.